Évangile de Jean, et nous arrivons au chapitre 8. Nous arrivons au chapitre 8. Notre lecture commencera au chapitre 7, verset 53, le dernier verset du chapitre précédent, chapitre 7. Donc, chapitre 7 de l'évangile de Jean, verset 53. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Amen. La fête était terminée, fête qui s'était déroulée du 15 au 22 du mois de Tisri, et l'on était donc le 23 du mois de Tisri, c'est-à-dire au début de notre mois d'octobre. Et Jésus, après la fête, alors que chacun s'en retourne chez soi, Jésus, lui, se rend de Jérusalem à la montagne des Oliviers, qui est toute proche. Cette montagne des Oliviers dont il est tant parlé dans l'Écriture, et qui déjà avait, dans l'histoire du peuple juif, eu un rôle assez émouvant. C'est là, en effet, que le roi David avait pleuré et s'était humilié après son péché. Cette montagne des Oliviers ne bouge pas. Cette montagne des Oliviers se trouve, vous voyez, sur notre chemin. Donc Jésus se retire et passe une nuit là, sur la montagne des Oliviers. Mais le lendemain matin, le 24 donc du mois de Tisri, Jésus revient au temple pour enseigner. Toujours cet enseignement qui revient. Mes amis, comme il faut que nous pensions à cela et que nous fassions une place dans nos prières à l'enseignement de l'Église aujourd'hui, le peuple se meurt faute de vision, faute de connaissance. Il faut absolument que nous demandions au Seigneur d'enseigner son Église. Tout le monde le dit, mais on ne prend pas les mesures qui s'imposent pour cela. Et chers amis, rappelons-nous que dans le chapitre 19 des Actes, nous voyons Paul qui vient à Éphèse et qui là s'arrête 2 ans. Et il va enseigner dans l'école d'un nommé Tyrannus. Et là, toute l'Asie mineure va être, à partir de ce centre d'enseignement, ce centre missionnaire, toute l'Asie mineure va être évangélisé. De là partiront des gens, n'est-ce pas, qui auront reçu connaissance de la doctrine de Christ et qui auront en eux un puissant zèle. Ils partiront évangéliser toute l'Asie mineure. Il nous est dit que toute l'Asie mineure connut la parole se répandait et la parole devenait puissante et forte. C'est là que se font les miracles les plus éclatants. Alors, voyez là, l'importance de l'enseignement qui, aujourd'hui, au milieu de l'Église, a disparu. Il fut un temps où l'on enseignait beaucoup plus l'Église. Au XIXe siècle, par exemple, malheureusement, d'autres choses manquaient. Manquaient à la doctrine, manquaient à la foi, et manquait aux moyens d'expression, notamment les dons spirituels et le baptême du Saint-Esprit que l'on ne recherchait plus. C'est ce qui fait que l'enseignement a été souvent sans effet ou sans effet suffisant. Mais prions maintenant pour que nos assemblées évangéliques soient enseignées. Il faut que nous sondions la parole de Dieu. Elle nous est donnée. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, en prendre la surface simplement. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous devons aller au fond. C'est la chose la plus importante, ça. C'est la nourriture de nos âmes. Nous aurions beaucoup d'occasions d'être émus. Nous aurions beaucoup de rassemblements où il y aurait un grand élan de foi. Je ne dis pas même d'enthousiasme, mais même de foi. Je ne dis pas le contraire, n'est-ce pas? Nous chanterions Alléluia, il y aurait l'ambiance, n'est-ce pas? Mais ça ne nous donnerait rien, ça retomberait à plat s'il n'y a pas la connaissance dans les cœurs, et s'il n'y a pas ensuite une marche réelle dans le Seigneur. C'est ça qui importe au-dessus de tout. Alors, ne sacrifions pas une chose pour l'autre. Nous avons les dons spirituels, c'est très bien. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit par un baptême, c'est très bien. Mais ne laissons pas l'enseignement hors de portée. Ainsi, le Seigneur Jésus retourne au temple et il enseigne. Et voici qu'un fait tout particulier qui va nous occuper ce matin se produit. Les ennemis de Jésus, qui savent très bien, surtout depuis la remarque faite par Nicodème, qui était consignée à la fin du chapitre précédent, ils savent très bien qu'ils ne disposent d'aucun motif d'accusation réel. Ils veulent condamner le Seigneur, ils veulent même le mettre à mort, ils ont formé entre eux ce complot, mais ils n'ont rien vraiment entre les mains pour l'accuser. Alors, voici qu'au lieu de venir avec hostilité, le désir de l'arrêter, ils s'amènent tout gentiment en amenant devant lui et au milieu du peuple qui entoure le Seigneur, une femme. Une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Ils ont découvert ce cas typique de péché qui entraîne la mort. Une femme mariée, prise en flagrant délit d'adultère, il n'y a pas besoin de preuves, pas besoin d'enquête, la chose est certaine, ils amènent la coupable devant le Seigneur Jésus et devant tout le peuple. Quelle aubaine pour ces hommes, car ils vont se saisir de ce cas typique pour tendre un piège à Jésus. Ils vont poser une question au Seigneur. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Voilà le piège. Toi donc, que dis-tu? D'abord, informons-nous de ce que disait la loi de Moïse. La loi de Moïse, Deutéronome 22 et verset 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, voulaient lapidrer, et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Le cas, en somme, qui est présenté ici au Seigneur est celui du verset 22. Il s'agissait d'une femme mariée. Il est dit que cet acte-là, cette transgression de la loi, fait encourir la peine de mort. Il n'est pas dit laquelle, bien sûr, mais c'est la lapidation pour la jeune fille, à plus forte la fiancée, à plus forte raison pour la femme mariée. Seulement, nous voyons déjà, n'est-ce pas, combien ces hommes manquent de justice, et qu'il est dit dans le texte, ils mourront tous deux, l'homme et la femme. Or, puisqu'ils ont un flagrant délit, ils sont dans ce cas, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, c'est un flagrant délit, ils ont donc eu les deux. Ben, pourquoi n'amènent-ils que la femme? Ils auraient dû amener aussi l'homme. Il est autant coupable et il doit être lapidé, lui aussi. Vous voyez, n'est-ce pas, comme déjà ces hommes, on sent qu'ils n'ont pas un vrai souci de la justice. C'est tout autre chose qui les anime. Dans le Lévitique aussi, Lévitique chapitre 20 et verset 10, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Et cette mort, c'est la lapidation. La lapidation était ordonnée dans bien des cas, et notamment ceux que je vais vous rappeler rapidement, vous montrer que ce n'était pas le seul cas, mais vous montrer ce qui entraînait cette mort affreuse, qu'était la lapidation. Celui qui se livrait à la divination, quelqu'un se livrant à la divination, qui était lui aussi surpris à faire cela, il devait être lapidé. Le blasphémateur devait être lapidé. Celui qui violait le sabbat aussi. Le faux prophète ou le songeur qui cherche à détourner autrui de l'Éternel. Les idolâtres, les fils rebelles à leurs parents, et la femme et l'homme adultère. Voilà des cas qui entraînaient la mort par lapidation. Hier, vous étiez tous, hier après-midi, emportés par le zèle de me découvrir dans l'Ancien Testament, surtout des cas de péché qui mènent à la mort contre le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Si on avait attendu encore, vous m'en auriez trouvé d'autres, mais vous avez cité quelques cas qui n'étaient pas caractéristiques du péché contre le Saint-Esprit, et ce n'est pas le fait que la sanction est la peine de mort qui fait le péché contre le Saint-Esprit. Je veux dire, sanction dans la loi de Moïse, selon la loi de Moïse, c'est pas cela. Et le cas d'adultère, par exemple, ça entraînait la peine de mort, sans toutefois constituer le péché contre le Saint-Esprit, sans quoi le Seigneur Jésus n'aurait pas pu pardonner ici à cette femme. Si vraiment ça avait été le péché contre le Saint-Esprit, alors là, il y avait impossibilité totale de pardonner. D'ailleurs, vous voyez, l'adultère, par exemple, n'était pas une résistance, une lutte ouverte contre les desseins de Dieu. C'était un péché de la chair, un péché de l'homme, n'est-ce pas, qui, bien sûr, n'a pas souci de respecter la loi de Dieu, mais enfin, ce n'était pas une opposition délibérée au dessein de Dieu. Ces hommes ont-ils le sincère désir d'appliquer la loi de Moïse, d'être les vrais défenseurs de la justice de Dieu? Mais pas du tout, pas du tout, ce n'est pas cela qui les anime, ce n'est pas cela. C'est un calcul qui les fait agir. Ils veulent prendre Jésus en défaut et saisir un motif pour l'accuser. Donc, ces hommes sont doubles. À l'extérieur, c'est-à-dire en apparence, ils se font les hommes zélés pour la loi, les défenseurs de la loi, n'est-ce pas? C'est très beau, ça. Mais à l'intérieur, dans le fond de leur cœur, et en vérité, il y a une machination bassement intéressée. Elle est intéressée parce que Jésus les gêne beaucoup, Jésus menace leurs privilèges, et c'est ça qui les taquine beaucoup. Ils veulent supprimer le Seigneur parce qu'ils veulent conserver leurs privilèges tels qu'ils sont. Ce qu'ils auraient voulu, et ce que nous voyons d'ailleurs apparaître dans les évangiles synoptiques, et notamment Luc, ils auraient voulu que le Seigneur Jésus consentît à apporter la puissance dont il disposait, surtout la puissance des miracles, et à canaliser cela dans leur structure religieuse, dans leurs habitudes, dans leurs traditions religieuses, sans rien déranger de leurs affaires, voire même qu'ils reconnaissent officiellement les différents grades, postes, la hiérarchie qui existait au milieu des chefs des Juifs. Ah, oh, s'il avait fait cela, il aurait été l'homme le plus grand, l'homme qu'on aurait honoré, et qu'on aurait gardé. Autrement dit, il voulait mettre le vin nouveau, la puissance de l'Esprit qui venait avec Jésus dans les orties outres. C'est cela qu'il voulait faire. Ainsi donc, ils étaient faux, ils étaient hypocrites. Jésus les accusera d'hypocrisie, puisque en apparence, ils se font les zélés défenseurs de la loi, mais à l'intérieur, leur but, leur intention, c'est d'accuser Jésus, comme le texte nous le dit. Ils mettaient donc Jésus en face de l'obligation de se prononcer pour ou contre la lapidation de cette femme. Et la machination, le piège était le suivant. Imaginons que le Seigneur, eux, ils avaient pensé à tout cela, n'est-ce pas, ils avaient vu une réponse oui ou une réponse non, une réponse affirmative ou négative. Supposons que Jésus ait été affirmatif et qu'il ait dit, bon, eh bien, c'est entendu, la loi de Moïse dit cela, je ne peux pas dire le contraire, lapider cette femme. Alors Jésus, à ce moment-là, aurait apporté lui-même un démenti à sa prédication et à ses antécédents de pardon. Il savait que jusque-là, Jésus avait partout pardonné les péchés, il était venu avec des paroles de miséricorde pour les plus grands pécheurs, alors il pensait que là, il allait être obligé de se montrer différent et de prononcer une sentence conforme à la loi de Moïse qui serait une contradiction de son ministère habituel de pardon des péchés. Alors là, ils auraient été vainqueurs devant le peuple, ils auraient dit, voyez-vous, n'est-ce pas, quand il est vraiment là, dans l'embarras, quand il est devant la loi de Moïse, vraiment, eh bien, il ne peut plus pardonner les péchés, eh bien, il n'y a rien à faire, il ne peut plus. Ne croyez pas qu'il va donc pardonner tous les péchés. C'était déjà l'une de leurs intentions. Ils voulaient déjà discréditer donc Jésus aux yeux du peuple. Le peuple venait vers Jésus, pas attiré par la parole, bien entendu, de Dieu, et puis heureux de trouver miséricorde auprès de ce grand prophète. Mais en outre, les Juifs ne disposaient plus du droit de condamner à mort sous l'occupation romaine. Ils ne pouvaient plus condamner à mort pour quelque crime que ce soit commis contre la loi commune. Et alors, ils pensaient également ceci, non seulement il sera discrédité aux yeux du peuple, mais nous allons pouvoir aussi faire arrêter également. Donc, leur intention, c'était que s'il y avait une réponse affirmative, Jésus puisse troubler le peuple, mécontenter le peuple, qui n'aurait pas compris pourquoi là, le Seigneur ne pardonnait pas les péchés,
et puis qui ensuite n'aurait pas accepté non plus une parole de Jésus disant, eh bien, portez cette femme au gouverneur, soumettez-la à la justice romaine, il n'aurait pas compris cela non plus, parce que le peuple ne pouvait pas supporter de se plier à l'autorité de l'occupant, l'autorité romaine. De toute manière, il voyait donc là, dans la réponse affirmative, n'est-ce pas, bien des avantages à recueillir pour aboutir à leur fin. Et puis, s'il y avait une réponse négative, si le Seigneur, n'est-ce pas, disait, eh bien non, on ne va pas la lapider, je vais lui pardonner ses péchés. Alors, Jésus, dans ce cas, bien sûr, serait resté fidèle à son ministère de pardon des péchés, mais il aurait porté atteinte à la loi de Moïse, qui était la loi morale autant que la loi civile du peuple juif. Il aurait donc lui-même porté atteinte, tout comme aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui aurait commis un crime, un délit, ou un crime, un délit grave, un crime, puni par la loi pénale du pays, de la loi pénale française, par exemple, et qui couvrirait ce crime et ce délit, serait lui-même passible, n'est-ce pas, d'une peine devant la loi. Il serait lui-même rendu complice, il se rendrait complice. Jusqu'ici, Jésus n'avait eu l'occasion de prononcer le pardon des péchés qu'à l'avantage de gens qui ne tombaient pas sous le coup d'une condamnation de la loi Moïse. Ben, on lui avait présenté des paralytiques, des gens qui avaient surtout besoin de guérison, et puis il les guérissait et il leur disait tes péchés se sont pardonnés, mais ces gens-là ne tombaient pas sous le coup de la loi de Moïse, ils n'avaient pas commis un crime passible de la mort. Alors là, le pardon des péchés, bien entendu, heurtait les juifs, les pharisiens et les scribes, mais ils n'avaient pas pu quand même en prendre motif pour accuser Jésus de transgression de la loi de Moïse. Là, ils le pouvaient. Ils avaient vraiment un cas qui tombait sous le coup de la loi de Moïse. Alors, nous allons voir comment Jésus va se comporter, ce qu'il va faire et dire au cours de cette affaire. D'abord, nous voyons le Seigneur Jésus se baisser et écrire avec son doigt sur la terre. Il se baisse, n'est-ce pas, et il écrit. Pendant que ces hommes sont là, en insistant, lui disant, « Mais voilà, nous avons pris cette femme en adultère, voilà, dans telle circonstance, la chose est certaine, elle ne peut pas nier, nous sommes témoins. Alors, que dis-tu, que vas-tu dire? La loi de Moïse est formelle, tu le sais bien, alors que vas-tu dire ?» Pendant qu'ils insistaient comme cela, Jésus, sans rien dire, avec son doigt, écrivait sur la terre. Évidemment, le texte ne nous dit pas ce qu'il écrivait. Et on peut se poser à ce sujet, il faut même se poser des questions. Il y a dans l'Écriture sainte, mes amis, des exercices. Pas moi qui ai inventé les exercices, c'est le Seigneur. Il y a des exercices dans l'Écriture sainte. L'apôtre Paul nous dit bien qu'il faut quelquefois tâtonner, il faut chercher, n'est-ce pas ? Eh bien, ça ne pouvait pas être un geste machinal. On ne peut pas prêter au Seigneur, n'est-ce pas, un geste machinal pour se donner une contenance. Par exemple, comme nous, nous ferions, hein, on est embarrassé, on ne sait pas quoi faire, alors on se donne une contenance, on rêve, on fait des gestes, n'est-ce pas, on attend, on laisse passer le temps un petit peu. Ça ne pouvait pas être cela. Ça ne pouvait pas non plus être une indifférence. Le Seigneur indifférent devant le cas d'une femme qui est là, passible de la mort, pas qu'on accuse publiquement, le Seigneur n'est pas indifférent, l'âme de cette femme lui était tout aussi chère que toute autre. Par conséquent, ce ne peut pas être l'indifférence. Ce n'est pas donc non plus pour gagner du temps, pour réfléchir. De telles suppositions, vous le comprenez bien, sont incompatibles avec la sainteté et la divinité du Seigneur. Prêtez cela au Seigneur, si je le dis, c'est pour montrer justement que c'est incompatible, n'est-ce pas? On peut prêter à n'importe qui, à nous par exemple, n'est-ce pas? Il se peut que, même si on nous pose une question touchant l'Évangile, nous soyons embarrassés. En tout cas, je ne vous conseille pas de faire des gestes de machinaux, n'est-ce pas? À ce moment-là, il n'y a qu'à prier le Seigneur, tout simplement prier dans son cœur le Seigneur. Mais enfin, ça peut être prêté à un homme, ça ne peut pas être prêté au Seigneur Jésus. Par conséquent, ce qu'il faisait là avait un sens précis, à nous de le découvrir. Le Seigneur ne peut jamais être pris au dépourvu. Et il va préparer la réponse très brève qu'il va faire à ces hommes. Il est en train de la préparer. En écrivant sur la terre, il est en train de la préparer. En effet, il y a deux choses à considérer. D'abord, si nous lisons dans Exode, chapitre 31 et verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Moi, je crois que ça a été écrit du doigt de Dieu. Bon, moi, je prends ça textuellement. Ben, mais il y a un sens, bien entendu, il y a une portée à cela, une portée à une telle parole. C'est que si ça a été écrit du doigt de Dieu, c'est toute l'autorité de Dieu qui s'est manifestée là, c'est quelque chose d'important, quelque chose qui doit être considéré comme parole impérative de Dieu, n'est-ce pas? Le doigt de Dieu a prononcé les arrêts de sa justice, le doigt de Dieu. Or, Jésus écrivait avec son doigt. Lui qui avait annoncé plusieurs fois devant ces hommes qu'il venait de celui qui était en haut. Il venait du Père. Il venait de Dieu. Et il s'était fait, vous savez, n'est-ce pas, ces hommes, bien sûr, avaient contesté, mais il s'était fait le Fils de Dieu, le Messie. Jean-Baptiste aussi avait témoigné de cela, qu'il était le Messie, et ces hommes n'ignoraient pas cela. Or, le Messie possédait, il le savait, ces hommes, la divinité. Et par conséquent, le doigt de Jésus rappelait cela. Mon doigt est le doigt de Dieu, n'est-ce pas? Déjà, cela, le doigt qui écrivait. Il ne pouvait pas, en voyant Jésus écrire sur la terre, ne pas se rappeler. Il connaissait littéralement les Écritures. Jésus utilise leur connaissance très littérale et total des Écritures qu'il connaissait même par cœur. Alors, il ne pouvait pas manquer de se rappeler, n'est-ce pas, ce passage que nous venons de lire, le doigt de Dieu écrivant sur des pierres les 10 lois, les 10 commandements. Donc, déjà, en voyant le doigt de Jésus, il se rappelle ce qu'il a dit être, n'est-ce pas, venu d'en haut, venu du Père, et le doigt de Dieu qui écrit. Mais que pouvait écrire le doigt de Jésus sur la terre? Ben, il faut aussi le savoir. Eh bien, pour le savoir, nous allons nous reporter à un autre passage que les scribes ne pouvaient pas non plus ne pas évoquer. C'est dans Jérémie. Jérémie 17. Et Jérémie, chapitre 17, verset 9, nous lirons du verset 9 au verset 13. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme une perdrix qui couve des œufs, qu'elle n'a point pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus, ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Ils connaissaient fort bien ce passage, ils le connaissaient. Et la preuve qu'ils le connaissaient bien, c'est que quand, il y a déjà pas mal d'années, j'eus l'occasion de méditer sur ce passage, la parole de Jérémie 17 me revint à la mémoire. Par conséquent, à plus forte raison, devait-elle revenir à ces hommes. Et en faisant cela, n'est-ce pas, l'espérance d'Israël, mais il était là, Yahvé, l'espérance était l'Éternel, pas l'Éternel, c'est Yahvé. Ô Éternel, ô Yahvé, eh bien Yahvé qui est l'espérance éternelle, c'est le Messie, il était là. Et il est dit, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus, ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. Il était en train de les inscrire sur la terre. Il les inscrivait pour leur rappeler ce passage. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, Yahvé, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Il éprouvait leur cœur, il sondait leurs reins pour rendre à chacun selon ses voies. Ce sont vos voies qui vous amèneront en jugement devant Dieu. Leur disait par ce langage muet, mais à travers les écritures qu'ils connaissaient, leur disait Jésus par le geste. Moi, Yahvé, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Voilà ce que vous êtes en train de faire, et j'écris vos noms, parce que votre cœur maintenant est tortueux, parce que vous abandonnez l'Éternel, vous abandonnez la vérité, vous abandonnez la foi véritable et la justice de Dieu, mais vous vous livrez à l'iniquité de vos cœurs. Alors j'écris vos noms sur la terre, vos noms ne seront pas écrits dans le ciel, ils sont écrits par terre, sur la terre. Et cela, ils ne pouvaient pas ne pas comprendre ce langage. Eux qui disaient quelquefois dans la synagogue, n'est-ce pas, que les élus seront écrits dans le livre de vie du ciel et que les années seront écrites sur la terre. Ils savaient que les années devaient être écrites sur la terre. Et c'est cela que Jésus faisait pour juger leur cœur par ce langage muet. Ce qui d'ailleurs ne manque pas d'avoir son effet. Parce que ils continuaient, n'est-ce pas, à parler, peut-être avec beaucoup moins d'assurance. Leur assurance baissait au fur et à mesure qu'ils regardaient Jésus. Ils continuaient. Alors Jésus va se relever, il se releva un moment et va dire « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis, il se baisse à nouveau, le Seigneur, et il recommence à écrire avec son doigt sur la terre. Alors ils entendent cela, ils voient aussi cela, ils sont accusés dans leur conscience. Le cœur de l'homme est tortueux. Alors là, l'esprit, n'est-ce pas, les accuse et leur montre. Et le Seigneur vient de leur dire que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et là, le Seigneur Jésus se servait lui aussi de la loi de Moïse. Il n'avait pas pensé que la loi de Moïse pouvait avoir des retours pour celui qui l'a inspiré, qui l'a dicté à Moïse, n'est-ce pas? Et le Seigneur se servait lui-même de la loi de Moïse. En effet, dans le Deutéronome, au chapitre 17, et au verset 7. Nous lisons ceci. On peut lire le verset 6 et le verset 7. Concernant la lapidation, celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou de trois témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir. Et la main de tout le peuple ensuite, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Voyez-vous ce qu'il fallait? Il fallait que ce soit les deux ou trois témoins qui se saisit, et que parmi les deux ou trois, il fallait qu'il y en ait un qui commence. Alors il fallait qu'il prenne une pierre, et le geste était sérieux, n'est-ce pas, parce que c'est lui qui allait déclencher la lapidation de tout le peuple. Il prenait une pierre, même solennellement, n'est-ce pas, il faisait justice, il était l'instrument de la justice de Dieu, et il lançait cette pierre sur le coupable. Ah. Mais pour faire cela, il fallait être témoin. Mais pour être témoin et accusé, la loi dit aussi qu'il fallait être dans un état de pureté. Et si on était impur, on ne pouvait pas être témoin et lancer une pierre. Ah. Il fallait donc être dans un état de pureté, de sainteté, pour être l'instrument de la justice de Dieu. Et c'est donc bien avec la loi de Moïse, mais la loi de Moïse réellement pensée dans son objet, que le Seigneur Jésus va leur dire que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Si vous êtes capable de jeter la pierre, alors lapidez cette femme. Si vous êtes capable, si vous êtes vraiment dans les conditions de la loi pour le faire, mais leur cœur est accusé. Qui va se permettre de soulever la première pierre et de la jeter sur cette femme, alors que sentent très bien dans leur cœur, ils sont noirs, sentent très bien que leurs pensées sont toutes tournées vers des machinations ténébreuses. Ils savent, ils se sentent repris, et il n'y a pas, ils ne peuvent pas. Aucun d'eux ne peut prendre la pierre, soulever la première pierre pour la lancer. Alors l'un prend la décision de s'en aller, un deuxième limite, puis un troisième, puis un quatrième. Je vois ces hommes-là, silencieux, tout confus, tournant les regards, détournant les regards de Jésus, n'est-ce pas, et puis regardant la sortie pour se diriger, n'est-ce pas, lentement, dans le silence, l'un après l'autre, vers la sortie, n'est-ce pas, laissant les choses comme ça, ne demandant plus rien, plus aucun compte au Seigneur, plus aucune parole, plus aucune décision. Leur piège a fait fiasco, vraiment fiasco, et c'est eux qui sortent confus, et c'est eux qui sortent accusés de cette affaire. Ah, ils ne s'étaient pas imaginé cela. Ils n'avaient pas pensé que ça pourrait finir comme ça, n'est-ce pas? Les voici accusés, eux sont les coupables. Ils ne pensent même plus à la femme et à son crime. Eux, ils ont un crime plus grand dans le cœur. Eux, les conducteurs du peuple. Il y a là, bien sûr, une leçon pour l'Église. Il ne faut pas manquer de recueillir. Et cette leçon pour l'Église, on pourrait la formuler ainsi. Est-ce qu'il est facile d'accuser les autres? Nous ne sommes plus sous l'empire de la loi de Moïse, c'est vrai. Mais, vous ôterez le mal du milieu de vous, bien, Paul l'a dit aussi pour l'Église. Et le Seigneur l'a dit aussi, Matthieu 18. Bah, il faut ôter le mal de l'Église. Il n'est pas dit que le mal doit être toléré dans l'Église. Si mal il y a, il faut qu'il soit enlevé de l'Église. C'est une chose qui doit être faite. Il y a une discipline spirituelle, mais une discipline qui est cependant stricte. Et pour cela, il faut bien qu'il y ait des témoins, deux ou trois témoins. C'est toujours la même chose. Matthieu 18 nous parle en effet de deux ou trois témoins. Si tu vois ton frère qui a péché, alors tu le reprends entre lui et toi seul. Et puis, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tu ne vas pas aller colporter ça partout, mais tu vas lui dire à lui, et tu as gagné ton frère. Alors, vous pourrez vous réjouir ensemble de ce qu'un péché a été surmonté. S'il ne t'écoute pas, alors prends avec toi deux ou trois témoins. Pas toujours des témoins du fait, mais des témoins du reproche qui sera fait à ce frère. Et... viens et reprends-le encore une fois, n'est-ce pas? S'il vous écoute, alors vous avez gagné ce frère. Et s'il n'écoute pas, Alors dis-le à toute l'Église, et l'Église, elle aussi, reprendra le frère. S'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit comme un païen et comme un publicain, et par conséquent, rejeté de l'Église, peut-être pas pour toujours, mais pour un temps. Eh bien, voilà donc, n'est-ce pas, dans l'Église, il y a une discipline. Il faut, là aussi, ôter le méchant du milieu du peuple. Et ça, on ne le fait pas comme il faut, chers amis. Je vous dirais que là, cette procédure de Matthieu 18, je ne l'ai vue appliquée qu'une seule fois, et c'était à Rouen. À Rouen. Je ne sais pas si notre sœur, Mme Didier, se rappelle, elle devait être là, probablement, enfin, c'est en octobre dernier. C'est qu'elle est, Mme Didier. Et elle est là, n'est-ce pas? Vous rappelez, M. Copin, n'est-ce pas? Et j'ai été très heureux de voir comment procédait M. Copin, parce que vraiment, c'était ça. Et très bien, en laissant chaque fois un temps pour à la personne qui était intéressée par cette chose, ça, lui laissant un temps pour qu'elle se reprenne. Hein. C'était très bien. Il avait vraiment suivi parfaitement cette procédure. Et c'est cette procédure-là qu'il faudrait suivre, n'est-ce pas, pour l'exclusion de l'Église. Si ton frère a péché, reprends-le. Et lui laisser le temps, il y a trois phases différentes, et ce n'est qu'à la fin de la troisième, si vraiment le frère ou la sœur n'a pas voulu entendre raison, c'est là qu'il est exclu de l'Église. Nous, à Alger, nous étions forcés aussi de mettre cela en pratique. On n'a pas toujours bien pu le faire pour des raisons qui nous dépassaient un petit peu, n'est-ce pas? Mais enfin, on s'était efforcé de mettre cela en pratique. Nous faisions un peu nos armes là-dedans, notre expérience. Quand on fait son expérience, on est souvent maladroit. Et maintenant, évidemment, j'agirais avec plus d'expérience si j'avais à le faire. Mais de toute manière, c'est ça, le but, c'est de gagner l'âme, c'est de ramener cette âme. Le but, ce n'est pas de la mettre dehors. Le but, c'est de la ramener sous le couvert du pardon du Seigneur. Il faut que l'âme, donc, puisse s'humilier. Mais en tout cas, il faut des accusateurs. Ben, il faut des accusateurs. Il faut des témoins qui puissent reprocher le péché. Et puis, il y a bien des circonstances où, hélas, il faut se faire, pour ainsi dire, l'accusateur de son frère ou de sa sœur. Mais c'est une chose redoutable, mes amis. C'est une chose redoutable. Et je trouve que dans l'Église, on manie cela, n'est-ce pas, avec légèreté. Et c'est une chose qui est jugée très grave par le Seigneur. Excessivement grave. Écoutez ce que dit l'Évangile. Luc 6, verset 37. Luc, chapitre 6, et verset 37. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Si vous avez eu beaucoup de miséricorde pour les autres, une grande mesure de miséricorde, vous en aurez une grande. Si votre mesure était toute petite, eh bien, celle que vous présentera le Seigneur sera petite aussi. Et mes amis, ça, il faut y penser. Il faut y penser à cela. Nous sommes les instruments de la miséricorde de Dieu, non pour tolérer le péché, pas plus que Christ l'a toléré, nous avons à le tolérer dans l'Église. Mais, chers amis, nous sommes les instruments de la miséricorde de Dieu. Nous ne sommes pas là, n'est-ce pas, pour pourfendre l'oreille des autres. Comme Pierre l'a fait, n'est-ce pas, avec le serviteur du souverain sacrificateur, qui se nommait Malchus, avec Malchus, n'est-ce pas, et il prend l'épée, puis, bon, n'est-ce pas, un beau coup, il lui tranche l'oreille. Et notez que c'est parce qu'il a mal visé, sans ça c'est la tête qui voulait que lui trancher, n'est-ce pas? C'est la tête qu'il voulait frapper. Heureusement qu'il a été maladroit. Et heureusement que souvent nous sommes maladroits, n'est-ce pas? Notre maladresse est souvent quelque chose qui préserve la personne et puis qui nous préserve nous aussi. Parce que si Pierre avait vraiment coupé la tête de Malchus en deux, ben, peut-être le Seigneur pouvait très bien la remettre en place, cette tête, mais ça aurait été alors un miracle, n'est-ce pas, d'autant plus grand, extraordinaire, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ce que Pierre voulait faire. Il voulait pourfendre la tête, lui. Et il n'a coupé que l'oreille, et le Seigneur est obligé de recoller l'oreille, comme il est obligé de recoller nos sottises. N'est-ce pas? Mais enfin, mes amis, il faut faire attention, n'est-ce pas? Nous sommes des instruments de la miséricorde de Dieu. Non pas pour tolérer, soyons intelligents, non pas pour admettre le péché, bien sûr, n'est-ce pas? Non pas même pour être faible avec le péché, pas du tout! Ne pas participer au péché du frère et de la sœur, bien sûr. Mais nous ne sommes pas là pour envoyer les gens en enfer. Nous sommes pour les envoyer au ciel. Et nous devons tout faire, et la parole de Dieu nous donne des armes pour les diriger vers le ciel. Et s'ils ont péché, eh bien nous avons l'arme de la prière. Jacques nous le dit, Jean nous le dit, n'est-ce pas? Et si on ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré, ben on couvre une multitude de péchés, même pour nous, chers amis. Nous, on va couvrir aussi nos propres péchés, parce que nous aurons été les instruments de la miséricorde de Dieu. Fassons cela, chers amis, et ne nous faisons pas les pharisiens et les scribes de ce récit au sein de l'Église de Jésus-Christ. Le Seigneur va donc se trouver seul avec cette femme, et lorsque cela sera, il se relève. Il n'a plus de raison de rester là, sur la terre, baissé vers la terre et d'écrire avec son doigt. Il se relève et puis il regarde et il ne voit plus que la femme. Alors, Jésus va lui dire, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Il va provoquer une réponse de la femme. Vous comprenez que cette femme était, n'est-ce pas, on peut dire, vraiment sous le coup d'une très forte émotion. Sans doute même ses larmes coulaient-elles, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que elle a été jugée par sa conscience. Elle n'a pas pu nier la chose. C'est un flagrant délit. Elle ne pouvait pas nier, elle n'a même pas tenté de nier, c'était certain, son péché a été dévoilé, sa responsabilité devant la justice de Dieu a été mise à découvert, et se voyant entouré des chefs des juifs, les scribes, les pharisiens, ces docteurs, ces gens qui font respecter la loi de Moïse, elle a senti l'arrêt de mort tout près d'elle. Que pouvait-elle dire? La loi de Moïse condamne cette femme à la mort, à la lapidation. Elle savait cela. Elle n'avait pas pensé, bien sûr, à cette chose-là en commettant ce péché. Mais maintenant, elle réalisait quelle était sa responsabilité devant la justice de Dieu. Elle sentait déjà le froid de la mort. Elle s'était déjà vue même couchée dans la mort. Elle avait déjà presque senti les pierres tomber sur son corps et la blesser à mort. Et malgré la présence de tous ces juges autour d'elle, malgré la présence de celui qui est venu de Dieu, de ce grand prophète qui fait tant de miracles, ainsi que tout le monde est parti, elle s'attendait à recevoir les pierres. Elle se préparait à la mort, elle était déjà comme morte, elle avait frôlé la mort de tout près, et voici que tout le monde se retire, on lui laisse la vie. Est-ce qu'elle peut vraiment caresser l'espoir d'échapper à la mort? Tant qu'il n'y a pas mort, et quand on est passé si près de la mort, l'espoir qui vient, l'espoir de conserver la vie, est une chose si grande, si précieuse. Son cœur était là prêt à bondir. Serait-elle pardonnée? Serait-elle même justifiée devant la justice de Dieu? Pourrait-elle reprendre le cours d'une vie? Oh, cette vie, elle la voudrait droite, mais soit-y. Pourrait-elle faire tout cela? Et voici que cet espoir Il n'est pas seulement là, dans son cœur. Le Seigneur qui est là tout seul devant elle va lui dire tous où sont ceux qui t'accusaient. Personne ne t'a-t-il accusé. Et vous comprenez que c'est le cri de son espoir qui va sortir de sa bouche. Non, Seigneur, non, personne ne m'a accusé. Non, ils sont partis, non, personne ne m'a accusé. N'est-ce pas? Elle attend le mot qui va l'absoudre tout à fait. Et Jésus va lui dire, en effet, je ne te condamne pas, mon frère. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Quelle joie pour cette femme. C'est vraiment une sortie de la mort. Elle est vraiment passée dans la mort, comme autrefois dans l'Ancien Testament. Des hommes sont passés tout près de la mort. Jacob a frôlé la mort quand il a vu que son frère Ésaü venait au-devant de lui avec la détermination de lui donner la mort. Depuis si longtemps, il avait juré cela. Jacob est là, il sent déjà le froid de la mort. Il était passé tout près de la mort. D'autres hommes aussi sont passés bien près de la mort. Et puis, au dernier moment, Isaac même, il a été repris, nous dit l'Épître aux Hébreux, comme par une résurrection. Eh bien, c'était le cas aussi de cette femme. C'est presque une résurrection. Et c'est bien cela, en effet, la voie de la miséricorde de Dieu. Faire mourir avec Christ, faire sentir la mort, parce que le péché mérite la mort. Mais au moment où la mort est là, qui fait son œuvre de repentance dans le cœur, alors là, vient la parole qui assout, vient la parole qui dit, je ne te condamne pas non plus, lève-toi, va, tes péchés te sont pardonnés. C'est une chose magnifique, voilà la véritable miséricorde, voilà ce que le Seigneur est venu faire au milieu des hommes. Il est venu apporter la grâce et la vérité sont venus par Jésus. Je ne suis pas venu pour juger, pour condamner. Je ne suis pas venu pour perdre, mais pour sauver ce qui était perdu. Et là, il a en sa présence quelque chose qui était perdu, mais quelque chose qui a senti la mort, mais quelque chose qui part, ce frôlement de la mort a été vraiment couché, l'âme de cette femme a été couchée dans la mort, et il l'a fait sortir de cette mort, sortir du sépulcre. On peut dire que cette femme a été là, dans cette circonstance, baptisée en Jésus. Elle a été baptisée en Jésus et reçue le pardon de ses péchés. Chose merveilleuse. Voilà quelle est l'œuvre de Jésus. Nous touchons ici au cœur même de l'œuvre de miséricorde. Amen.